pour terminer ce passage que l'introduction, mais je respecterai, je m'arrêterai à la demi pour vous permettre de vous exprimer, ou quart, moins quart. Je ne dépasserai pas une heure. Quelque part, je voudrais dire que ces Juifs ont réussi progressivement à s'intégrer dans ce paysage d'Alsace, et surtout à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, dans de nombreux villages, ce qui fait aussi quelque chose d'unique dans tout l'Hexagone, eh bien, pratiquement, dans de nombreux villages, la synagogue se dresse non loin de l'église. Je dis se dresse, ou se dresse encore, on pourra en parler, à un moment où les risques sont extrêmement grands de voir toutes ces synagogues abandonnées. À l'époque, au milieu du 19e, deuxième partie, la synagogue abandonne en quelque sorte la posture accablée, meurtrie qu'elle a à la cathédrale, au portail sud de la cathédrale de Strasbourg, pour se dresser, s'affirmer, sans complaisance, mais aussi sans complexe. Certes, les Juifs, et c'est encore vrai dans mon enfance, les Juifs s'imposent une certaine réserve. Ils s'abstiennent, par exemple, de parcourir les rues le soir de Noël, à Dietlenhardt. Ou ils s'abstiennent de se montrer pendant que se déroule la procession de la fête Dieu. Mais cependant, à Col Nidret, à l'office de Col Nidret, qui est un moment fort de l'année juive, un auditoire non-juif se groupe respectueusement dans les derniers rangs de la choule. De même, les Juifs donnent des matzot, du pain azim à leurs voisins, et puis ceux-ci d'ailleurs leur offrent souvent leurs plus belles tiges de céréales et de branches chargées de fruits pour décorer la soukha. C'est aussi dans une auberge ou encore dans une ferme que le marchand de bestiaux juif, qui est parti avant l'aube, met ses tefilines à l'aube. Ce sont ses voisins, d'ailleurs à ce moment-là, il est souvent raconté, des enfants, des adultes se rappellent qu'ils avaient regardé le juif qui mettait ses tefilines dans la chambre et ils avaient tendance à pousser de petits cris et ils se faisaient réprimander par les parents qui disaient qu'ils n'avaient pas le droit, ils devaient laisser le juif tranquille. Le juif était là pour faire sa prière. Ce sont aussi ses voisins qui nourrissaient les bêtes au jour de fête et qui leur remettaient parfois un bouquet de fleurs pour décorer la table du Shabbat. Et puis, très souvent, c'est la servante chrétienne qui faisait répéter à l'enfant juif la prière, la malaragoël, la prière du soir avant de se coucher, avant de s'endormir. Elle connaissait par cœur cette prière. Je veux dire, j'ai l'air de faire une vignette pieuse, mais ça existait. Et cette vie, j'allais dire, partagée, et pas seulement côte à côte, c'est quelque chose d'extrêmement rare dans l'histoire des communautés juives. C'est pratiquement inexistant en Europe de l'Est, où la séparation se refaisait, même lorsqu'il y avait des relations commerciales dans la journée, quelque part, on se retrouvait entre soi et pas dans une interférence. C'est vrai aussi, je dois dire, dans une moindre, mais il n'y avait pas une interpénétration si forte de loin en Afrique du Nord. Alors comment caractériser ce judaïsme? Je dirais que pour moi avant tout, c'est ce qui détermine son rapport à soi et aux autres, c'est un judaïsme peu fanatique, c'est un judaïsme de la simplicité. Certes, on a dit, c'est un judaïsme sans grande inquiétude métaphysique, sans envolée mystique, c'est un judaïsme aimable, qui a, et je reprends une expression que j'emprunte au regretté Georges Herz, le mari de Jules, qui disait que c'est un judaïsme qui a conclu avec Dieu un pacte de non-agression. il y a ça. C'est aussi un judaïsme qui avait un sens profond de la chafrusse. Chafrusse, c'est le mot chécouta, le compagnonnage. Vous l'avez encore aujourd'hui quand des jeunes apprennent à la yeshiva. Ils apprennent à deux, en chafrusse, en partage. Et là, bon, c'est la chafrusse, c'est le sens d'une communauté chaude, vivante. Certes, envers des décors, cette communauté cède aussi, ou des juifs parfois, peuvent céder à la grossièreté, voire à la haine gratuite. Ces familles où on est de père en fils, Stocksauber, de leur ennemi à mort. Et surtout, ceux de la troisième, quatrième génération ne savent plus pourquoi, mais par fidélité, ceux avant eux continuent à perpétuer. C'est Stocksauber. Donc, c'est un judaïsme qui sait parfois céder à la grossièreté, à la haine gratuite. Et puis paradoxalement, c'est un judaïsme qui sait aussi être parfois du rare délicatesse, qui tranche d'ailleurs avec le milieu rural dans lequel il s'épanouit. À quoi je fais allusion? Le fait, par exemple, qu'à Pourim, on envoyait des shlachmonos, des cadeaux, et puis des beignets, aux gens fortunés également, pour ne pas désigner celles qui étaient considérées comme pauvres. On envoyait, et aux gens pauvres, la différence est pour les gens pauvres, généralement, on mettait de l'argent sous les beignets. Pour les gens riches, on n'ajoutait pas. Les notables, on n'ajoutait pas d'argent. Et puis, une autre coutume a beaucoup marqué, c'est celle du tronc qui est dans les maisons de deuil, tronc dans lesquels on met de l'argent. Et pendant la semaine de la Shiva, les 7 jours, les gens ne vont pas travailler. Et il était considéré comme tout à fait normal que ces gens prennent ce qu'il leur faut pour vivre à l'issue de ces jours, ce dont ils ont besoin. Mais là aussi, on ouvrait, la Hébreu ouvrait les troncs normalement une fois par an pour ne pas savoir qui parmi les endeuillés avait eu besoin de prendre de l'argent et qui n'en avait pas pris. Il y a là quelque chose dans le comportement, dans la relation à l'autre, qui me frappe beaucoup. J'ajoute aussi que, cependant, avec l'accession à une relative aisance, une certaine dureté de cœur, qui est propre à tous les parvenus, aux parvenus qui tirent gloire de sa réussite sociale, une certaine dureté de cœur fait son apparition.